je vais rappeler donc les points où on en était du cours de la semaine dernière. Donc essentiellement trois points, je vous rappelle. Donc le premier intérêt du lien entre anarchisme et société grecque ancienne, c'est le point qu'on a vu la dernière fois, je laisserai de côté, c'est donc le point de la démocratie. Donc c'est ce rapport avec la Grèce ancienne, l'anarchisme, le partage avec la modernité occidentale. Et donc je rappelle ce qu'on a vu la dernière fois, la différence dans le rapport avec la Grèce ancienne entre l'anarchisme et la modernité occidentale, c'est que la modernité occidentale se réfère à la démocratie représentative, c'est-à-dire un mélange de démocratie directe, qui est le problème de l'anarchisme, et avec le modèle impérial, le modèle des grandes sociétés impériales qui existaient du temps des Grecs et qui constituent les nations modernes ou les grands empires modernes. Donc l'anarchisme, lui, se réclame de la démocratie directe, c'est-à-dire une démocratie sans État, sans appareil d'État très important. Et donc, l'originalité de la démocratie directe, je résume ce qu'on a vu à la même fois, l'originalité de la démocratie directe grecque, c'est une société, on peut la résumer comme ça, une société sans État, ou sans appareil d'État important, dans le cadre d'une société très développée, d'où le rapport avec les sociétés dites primitives, qui sont des sociétés contre l'État. C'est le premier point. Deuxième point, le plus important, et c'est celui qui va être au cœur de ce qu'on va voir aujourd'hui et les fois suivantes, c'est que dans l'expérience grecque, il se produirait un événement important, c'est que les hommes, alors ça c'est le point le plus difficile à expliquer, les hommes échapperaient à l'ordre naturel ou divin. C'est-à-dire qu'il y aura un ordre, un modèle impérial, c'est que le monde obéit à des règles, et que les hommes doivent se soumettre à ces règles, que ce soit Dieu, le roi, etc. Dans le modèle grec, il y aurait une rupture radicale où les hommes considéraient que c'est eux-mêmes qui décident dans quel monde ils veulent vivre et donc de ne plus se soumettre à un modèle divin ou impérial. Donc ça, c'est le deuxième point très important et c'est celui-là qui est litigieux entre le modèle occidental et les positions anarchistes. Dans la mesure, troisième point, j'ai avancé trois points, dans l'anarchisme, au sens large, on considère que c'est une illusion très dangereuse de penser que l'homme peut se séparer de la nature et revenir vers la nature en maître et possesseur de la nature, comme le dira la philosophie moderne de Descartes. Donc, dans le modèle anarchiste, et c'est là où il faut bien voir ce phénomène-là, on n'a pas à choisir entre d'un côté l'homme qui se libère de la nature et qui instrumentalise la nature en fonction de ce qu'il veut faire, donc du libre arbitre, et de l'autre côté une soumission à l'ordre naturel ou divin. Il y aurait une soumission à un ordre naturel ou divin. La position libertaire au sens large, elle refuse ce dilemme et elle dit deux choses. L'homme ne peut pas sortir de la nature, c'est une partie de la nature. Et la deuxième chose, c'est-à-dire l'anarchisme, c'est que se situer dans la nature permet de poser réellement le problème de la liberté, de l'oppression, de l'émancipation et de l'aliénation. Dans la mesure où la nature, qui n'a pas de dimension morale particulière, elle est capable du bon comme du mauvais, du pire comme du meilleur, et donc le problème est interne à la nature. Qu'est-ce que la nature peut produire comme le monde tel qu'il est, c'est-à-dire les forces, les désirs, ce qui nous constitue, le fait qu'on a un corps, deux mains, deux bras, etc. Qu'est-ce qui, dans la nature, permet de construire un monde réellement libéré? Je ne sais pas si ce point est important, il faudra peut-être revenir, si je l'explique suffisamment nettement. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on va examiner à travers ce qu'on va voir maintenant. Donc l'intérêt des Grecs anciens, c'est qu'ils permettent de répondre à cette question, comment l'homme faisant partie de la nature peut être heureux et peut se libérer et être libre. Voilà. Donc on a trois pistes, il y en a qui sont inégales dans le plan que j'ai proposé. Aujourd'hui on va parler de l'Iliade et de la théogonie d'Hésiode, et ensuite on passera un peu plus de temps sur le théâtre grec. Donc la culture grecque produit trois moments qui permettent de penser ce rapport de l'homme et de la nature. Donc, le premier moment, c'est l'Iliade, je vais lire deux mots, ce qu'on va voir maintenant. Le deuxième moment, c'est cet autre texte presque contemporain, d'Hésiode, qui est la théogonie, et ensuite on parlera du modèle du théâtre grec. Ça va, non, si vous avez, enfin, on pourrait même discuter déjà s'il y a des points précis qui sont obscurs. Alors, pour ceux, j'ai déjà donné, là, ceux qui ont travaillé sur la question grecque l'année dernière, j'ai déjà donné une bibliographie, je continuerai d'en donner une, mais je signale deux livres de base qui peuvent vous servir de référence pour vous situer par rapport à ce dont il est question dans le cours. Donc, certains, j'ai déjà donné les références, donc je les redonne. Donc, le premier livre très intéressant, c'est le livre d'Abel Janière, J-E-A-2-N-I-E-R-E, Abel Janière, comme Jeanne, la lumière. Hein. Et donc, c'est un livre qui s'appelle Les Présocratiques. Et vous le trouvez, c'est édité par Seuil dans la collection Écrivain de toujours. Donc, c'est illustré, enfin, c'est un livre agréable, vous pouvez me l'offrir, enfin bon. Et c'est un livre qui date de 96 et qui parle donc des présocratiques, et on est en plein dans ce que l'on essaye de voir. Parce que ce qu'on va voir à la fin du cours, c'est qu'avec Socrate, il va y avoir un changement très net dans les représentations grecques. Donc les trois, l'Iliade, la théogonie et le théâtre, c'est présocratique, c'est avant Socrate, avant Platon, avant la grande philosophie grecque telle qu'on peut la connaître. Donc c'est le premier livre. Le deuxième que je vous conseille, c'est donc un autre livre de Jean-Pierre Vernant. Tous les livres de Jean-Pierre Vernant sont passionnants, et c'est un petit livre de poche qui se lit rapidement, facilement, et ça s'appelle « L'univers, les dieux, les hommes ». Donc l'univers, les dieux, les hommes, notez bien ce titre parce qu'il va être au cœur de ce qu'on va voir. L'univers, les dieux, les hommes, récit grec des origines. Récit grec des origines. Et donc vous le trouvez au Seuil également, mais dans une collection de poche, à la collection de points. Donc il date de 1999. Donc nous allons aborder un premier petit chapitre qui porte donc sur un des textes fondateurs de la littérature grecque, c'est donc l'Iliade. L'Iliade, dont on ne sait pas bien par qui elle a été écrite, donc, dont on pense que c'est Homère qui est l'auteur, et donc l'Iliade, c'est un des textes fondateurs de la littérature grecque, et de la culture grecque écrite, et donc c'est un texte qu'on peut dater du 9e siècle avant Jésus-Christ, sans être sûr de cette date. Alors ce qui est intéressant dans l'Iliade, et là je m'appuie en partie sur Janière, mais aussi sur Vernant et sur d'autres, dans l'Iliade, ce qui est intéressant, c'est que l'individu, l'être humain, ne constitue pas un monde séparé du reste de la nature. Voilà, c'est ça ce qui est très important dans l'Iliade, c'est que l'individu n'est pas séparé de la nature, il ne dispose pas d'attributs propres. Donc, par exemple, le libre arbitre, la conscience, la pensée, qu'il est séparé du monde extérieur. Donc l'individu dans l'Iliade ne renvoie pas à un roman psychologique. Voilà. Et ça, c'est un point déjà un petit peu critique parce que j'avance, c'est que dans l'Iliade, l'Iliade ne relève pas d'un roman psychologique. Les héros de l'Iliade ne possèdent pas des facultés qui décideraient de leurs actions et de leurs interactions. Donc les héros de l'Iliade n'ont pas de facultés. Tout ce qu'ils font, l'action des héros, leur réaction, ne relève pas, n'implique pas une réflexion préalable. C'est-à-dire que le modèle que nous, on connaît, réfléchit avant d'agir, dans les héros de l'Iliade, ça n'apparaît pas du tout. Les héros de l'Iliade ne se déterminent ni par rapport à l'intérêt, ni par rapport au bien ou au mal. C'est ce que montre bien Janière, les héros de l'Iliade, ce sont des forces en action. Voilà, les héros de l'Iliade, ce sont des forces. Et ces forces en action, elles sont en lutte avec d'autres forces dont elles ne se distinguent pas. On est dans un monde de forces qui s'affrontent, de désirs, de passions, et les héros d'Iliade constituent des forces au milieu de ces autres forces. Cette existence de l'individu et de l'être humain passe par deux caractéristiques, donc on peut dans la représentation, dans l'écriture, cette position des individus va être décrite de deux façons. Première façon dont l'individu est décrit, c'est que l'homme, c'est une force de la nature traversée par toutes les autres forces. Voilà. L'individu, c'est une force de la nature qui est traversée par toutes les autres forces, le soleil, la mer, les vagues, etc. Donc si on prend le vocabulaire de Proudhon, on dirait que l'individu de l'Iliade, c'est un composé, là je prends les concepts de Proudhon, c'est un composé de puissance au pluriel. L'individu dans l'Iliade, c'est un composé de puissance. C'est-à-dire un composé de force, d'équilibre de force en lutte les unes avec les autres. Donc je fais une petite parenthèse, vous comprenez bien que cette définition de l'individu qu'on trouve dans l'Iliade, l'anarchiste prétend que c'est la définition vraie, et que l'individu moderne est en fait comparable à l'individu tel qu'il est décrit dans l'Iliade. Donc l'homme, l'individu est un composé de forces qu'il fond, qu'il défend et qui finissent par l'écraser éventuellement, et qui l'engage dans une multitude de situations. Donc, chaque situation, c'est des rapports de force qui modifient l'individu, Achille, Patrocle, Agamemnon, etc. Et donc chaque situation est provisoire, avec des changements et des métamorphoses continuelles, des états d'âme, des états d'esprit, des héros grecs. Donc ça, c'est la première caractéristique des héros de l'Iliade. Deuxième caractéristique très importante que l'on retrouvera par la suite, les forces qui traversent et qui font et défont les individus dans l'Iliade, donc les personnages de l'Iliade, sont pensées à travers les dieux. Voilà, ça c'est très important, c'est-à-dire que le mode de représentation des Grecs, c'est que ces forces ne sont pas définies par des termes abstraits de la philosophie ou autre, ces forces sont identifiées à des dieux. Et donc je rappelle ce qu'on avait vu l'année dernière, le divin dans le monde grec, c'est un spectre extrêmement large. Vous avez plusieurs milliers de divinités possibles avec des formes extrêmement différentes, avec des grands dieux les plus proches de l'être humain, comme Zeus, Apollon, etc. On en reparlera. Mais vous avez aussi des formes divines qui sont à peine humaines, qui sont des espèces de personnalisation des forces de la forêt, des bois, de la mer, de la terre, etc., du feu. Et donc le monde grec a un modèle très particulier de se représenter toutes ces forces qui agissent, à la fois des forces naturelles, l'orage, le vent, la pluie, le feu, etc., ça c'est des forces naturelles, mais aussi des forces qui relèvent de l'humanité au sens psychologique que ça prendra par la suite, c'est-à-dire que vous avez des divinités qui représentent la colère, l'amour, le désir, la haine, la vanité, etc., c'est-à-dire que je rappelle ce qu'on avait vu l'année dernière, le ciel des Grecs, c'est une espèce d'immense cinéma, pas 3D, là, non. Oui, mais c'est un peu ça. Si vous avez été voir Avatar, là, bon, enfin, donc vous êtes dans un monde où le ciel représente, au lieu d'avoir des traités de psychologie, ils ont un ciel où l'être humain peut lire toute la finesse des états de pensée. Et on verra que le théâtre grec, c'est une tentative de mettre en forme ce système de représentation, et donc je reviendrai sur cette personnalisation qu'on a reproché aux Grecs. Le polythéisme grec a été très critiqué, mais on voit bien que du point de vue anthropologique, ça a une importance très grande. Alors donc, je vais terminer sur l'Iliade, on va parler de la théogonie, on y reviendra dans la discussion si vous voulez. Donc on peut avancer, à partir de ce que je viens de dire, on peut avancer deux petites propositions qui permettent de progresser dans la démonstration. La première, on peut la formuler comme ça, mais elle va nous servir tout le long du cours. Première proposition, dans le monde grec, l'individu se détache sur un fond. Voilà, il faudrait avoir cette image-là. L'individu, il se détache sur un fond. Ce fond, il en fait partie, l'individu. Donc c'est ce que en philosophie contemporaine ou dans la réflexion actuelle, on retrouve ce problème à travers toute la réflexion sur le processus d'individuation. Qu'est-ce qui fait que dans ce monde réel, justement, des fourmis apparaissent, des êtres humains, des bébés, etc. Donc c'est qu'est-ce qui fait qu'à partir de la nature naissent des individus, c'est-à-dire des identités, des choses ou des êtres différenciés. Donc les êtres, ils se détachent sur un fond sans jamais cesser d'être traversés par les forces de ce fond. Voilà, donc c'est ça qu'il faut, c'est la première proposition sur laquelle on reviendra si vous voulez. Deuxième proposition, et c'est là l'enjeu de la discussion, où chacun peut prendre position, c'est qu'en se détachant sur un fond, chaque individu croit pouvoir se couper de ce fond, doit pouvoir dire moi, dire je, en se détachant sur le fond, et donc éventuellement se retourner vers ce fond pour le modifier, transformer, etc. C'est ce qu'on a déjà vu, ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, ce qu'on avait vu la dernière fois. Donc, chaque individu sort d'un fond et croit pouvoir se séparer, et donc je rappelle que la position libertaire, c'est de dire que cette séparation est impossible et qu'elle est trompeuse et qu'elle produit des effets négatifs en grand nombre. Dernière idée, j'en avais annoncé deux propositions, mais c'est une idée supplémentaire qu'on peut ajouter, cette idée d'une séparation, qui est donc problématique dans le cours, là, telle que j'essaie de le présenter, cette idée d'une séparation, elle est donc au centre de la modernité occidentale. La modernité occidentale, elle s'est pensée comme une séparation des humains par rapport à la nature, et tout est construit là-dessus. On verra qu'elle est pensée aussi comme une séparation des humains entre eux, donc avec les interactions interindividuelles. Mais ce modèle de la séparation, qu'à mon avis l'anarchisme permet de penser, on le retrouve dans un grand nombre de domaines. Et donc, je vais donner un exemple de ce processus de séparation. On le retrouve dans la manière dont les religions se sont constituées. Et donc, je vais prendre l'exemple de l'islam, qu'on avait déjà travaillé en groupe. Et je m'appuie ici sur un autre petit livre, donc sur l'islam, que j'ai utilisé dans les bouquins que j'ai faits. Et c'est le livre d'Abdallah Laroui sur, j'ai oublié le titre du livre, bref, sur l'islam. Voilà, c'est un livre de poche, vous cherchez Abdallah Laroui. Et donc Abdallah Laroui fait une démonstration très intéressante sur le Coran. Donc ce texte, vous avez le texte du Coran. Si on reprend mon modèle, le modèle de grec, le Coran, il sort de la situation, il sort du monde du 7e siècle après Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il y avait à une période où il n'y avait pas de Coran, et après il y a la période où le Coran est produit comme l'Iliade, comme la Bible, les textes de la Bible, etc. Donc il sort de ce monde du 7e siècle, où vous avez le christianisme, le judaïsme arabe, il sort de la personnalité de Mahomet, qui lui-même sort d'un fond très ancien qui est l'humanité, le monde dans lequel il est né, il sort d'un contexte géopolitique, donc on peut dire que comme toute entité, comme les chaises, les bancs, les tables, le Coran, c'est une individuation produite par un fond de force. C'est quelque chose qui apparaît, qui naît, qui forme un individu, un texte, comme l'Iliade, comme d'autres textes. Et donc, ce Coran, Paul, je suis Abdallah Laroui, c'est vraiment qu'avant ça, donc ce Coran, dépend de ses forces qui l'ont produit, de l'histoire qui l'ont produit. Et alors, ce qui est passionnant, et ce que montre Abdallah Laroui, c'est que les savants arabes, donc des premiers siècles qui suivent la naissance du Coran, c'est que les savants arabes sont tout à fait conscients de ce phénomène d'individuation, et donc ça va donner un débat théologique passionnant sur cette idée que le Coran, dont vous avez un grand nombre de théologiens musulmans qui vont dire le Coran a été créé. Le Coran a été créé, et s'il a été créé, on peut analyser les conditions de création du Coran. Dire que quelque chose est créé, c'est penser l'individuation à partir d'un fond. La création, elle naît d'un fond préexistant. Donc le Coran a une histoire. En termes anarchistes, et je reviendrai sur ce concept anarchiste, on dira que le Coran, c'est une résultante. Voilà. Dans le vocabulaire anarchiste, je vais y revenir, le concept de résultante est essentiel. Toute chose, tout individu est une résultante. Et donc cette résultante, elle ne peut pas se détacher du fond qu'il a produit et qui continue de la traverser avec des conflits divers. Mais comme toute chose, le Coran, une fois qu'on existe, on tend à s'autonomiser par rapport aux fonds qui nous ont créés, et en s'autonomisant, on pense être né soi-même. Voilà, c'est ce que montre la rue à propos du Coran. On est un peu comme Hugues Capet, premier roi de France. Vous vous souvenez des barons d'Hugues Capet qui disent « qui t'a fait roi ?» Et ça, le roi, effectivement, a été nommé par les barons. Mais une fois que le roi est roi, il possède une force transcendante à la composition qui lui a donné naissance, et donc peut se retourner contre les barons et leur faire sentir que c'est peut-être eux qui l'ont nommé, mais c'est un peu comme le président de la République. Il n'est rien avant, mais une fois élu, il faut prendre le modèle impérial. Donc face à ce que montre Laroui, c'est que ce qui désole Laroui dans l'histoire de l'islam, c'est justement, mais c'est valable pour toute réalité, c'est qu'à un moment donné, on efface les traces de ce qui nous ont constitué, et donc, il va y avoir une thèse qui va s'imposer dans l'islam, c'est l'idée que le Coran a été, mais est incréé, n'a pas été créé, il existe de tout temps. Et je pense que toute chose, heureusement que nous on a la vieillesse pour nous rappeler qu'on n'est pas éternel, mais tout individu tend à penser qu'il sort de lui-même, donc à penser qu'on sort de la cuisse de Jupiter. Alors, on pourrait prendre cette formule. Les présidents de la République sortent de la cuisse de Jupiter. Et dans le langage ordinaire, cette formule traduit bien, c'est une formule très philosophique en fait, quand on dit « tu ne sors pas de la cuisse de Jupiter », c'est cette idée que personne, quitte à faire roi, personne, tout le monde sort du ventre de sa mère, en gros, hein. On ne connaît pas d'exception, même Jésus est sorti du ventre de sa mère. Le rôle du père a été limité, mais bon. Donc, cet exemple montre les enjeux que pose la... J'essaie de vous expliquer ce rapport qu'on va voir. Donc, sur l'Iliade, je ne développerai pas plus, parce que sinon j'aurai beaucoup plus de temps. Et donc, nous abordons un deuxième petit chapitre qui porte cette fois sur Hésiode. Donc, en gros, qui porte sur un texte qui est connu mais depuis très longtemps dans l'historiographie littéraire, c'est la théogonie. On va voir le mot théogonie qui est passionnant. Théogonie, c'est Goni, Gonos, c'est la naissance, Théos, c'est Dieu. Et donc, vous avez un texte grec qui s'appelle, qu'on peut dire, c'est la naissance du divin, donc la naissance de Dieu. Vous sentez bien qu'il y a déjà un truc bizarre dans cette formule. Donc, sur la théogonie, c'est un texte plus récent, on le date à peu près du 8e siècle avant Jésus-Christ, mais les dates sont très imprécises, et on l'attribue à un auteur, comme il est présent dans les textes, il parle de lui-même, donc c'est à peu près sûr, donc il s'appelle Hésiode, H-E-S-I-O-D-E. Donc Hésiode, c'est un grec du 8e siècle, donc là vous voyez c'est une période très archaïque, et c'est un paysan libre de la région de la Boétie, de la Béotie, de Thèbes. Donc on ne sait pas grand-chose. Paysan libre, ça veut dire qu'il c'est un paysan avec des esclaves, des femmes, des enfants qui travaillent, tout ça, et une écrit. C'est un gentleman farmer, la Béotie grecque de l'époque. Donc le titre Théogonia, la naissance du divin, la naissance des dieux. Donc on n'est pas sûr que le titre ait été voulu par Hésiode. Ce qui est certain, c'est que plus on remonte loin dans les manuscrits et dans les traces, dans les autres textes de la théogonie, il est connu sous ce terme de théogonie. Donc le terme de théogonie est à prendre au sérieux, même s'il n'est pas dans l'intention de l'individu Hésiode, il a du sens sur ce fond qui a vu la naissance de la théogonie dans la société grecque. Alors ce texte est très important d'un point de vue de la pensée anarchiste, et pour comprendre son importance, je vous rappelle donc deux concepts clés de la pensée libertaire qui permettent d'interpréter la théogonie dans le grand cadre de la société grecque. Donc le premier concept qu'il faut que vous notiez au moins dans la définition, c'est donc le concept de résultante dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. Donc je rappelle le concept de résultante, donc c'est Proudhon qui est une formule, mais il est utilisé massivement par Bakounine dans les textes théoriques de Bakounine, et donc c'est vraiment un texte, un concept clé des deux grands auteurs d'anarchisme. Donc dans cette position, on peut dire ça de manière assez rapide, toute chose est une résultante, toute chose, sans exception. Donc toute chose est composé d'une multitude d'autres choses qui sont elles-mêmes composées à l'infini. Donc toute chose est composée d'une multitude d'autres choses qui sont elles-mêmes composées à l'infini. On pourrait ajouter, là je complique, que quand je parle de choses qui sont des éléments d'autres choses, si on ajoute que ces choses sont des forces, on complexifie encore plus, parce que ce n'est pas simplement un boulon que je mets à tel endroit, qui serait lui-même composé d'atomes, de formes, etc. Mais ce boulon, c'est une force. Et les forces, c'est des choses qu'on pourrait dire vivantes, quasiment. C'est des choses qui agissent, qui sont agissantes, et qui sont composées d'autres choses avec des déséquilibres incessants, sur cette pensée-là. Deuxième visage de la résultante, donc premier visage, la résultante, elle est composée d'une multitude de choses. Deuxième visage de la résultante, qui est plus difficile à penser, qu'il y a une tension entre les deux, c'est que la résultante, elle est toujours plus que les éléments qui la composent. Elle possède une singularité et une subjectivité propre. Voilà, c'est ça qui est très difficile à penser. C'est qu'on est à la fois composé de choses et on est quelque chose d'autre chose. Alors on est autre chose. Chaque être est donc singulier et radicalement nouveau. Donc le paradoxe, vous voyez, vous saisissez la chose, c'est que je ne suis pas moi-même et en même temps je suis plus que ce que je ne suis pas. Enfin, je ne sais pas comment vous dire. Donc l'outrecuidance. La capacité du Coran à dire qu'il existe de tout temps, c'est une erreur, mais en même temps, ça s'appuie sur quelque chose de vrai, à savoir que toute entité est radicalement autonome dans sa subjectivité et sa singularité. Ce que Bakounine et Proudhon ont expliqué très souvent. Donc là, je pense que là, une des forces de la pensée libertaire, c'est cette tension entre cette idée, qui est géniale, qui a été inventée par découvert par Proudhon, c'est qu'à la fois les individus sont tout, sont radicalement autonomes. Donc quand je vous dis « je », vous avez raison, mais votre chat, quand il se défend, c'est qu'il a raison aussi. Ou quand le boulon résiste à votre clé, le boulon, il a raison. C'est que chaque chose a sa loi en elle, comme dit Bagoni et Boulon plusieurs fois. Et en même temps, je suis radicalement autonome, et en même temps, je suis radicalement dépendant des forces qui me composent, et ces forces, c'est l'ensemble des forces de l'univers. Voilà. Donc, il y a une tension qui ne pose aucun problème pour Proudhon, puisque toute la pensée de Proudhon, c'est de penser des contradictions qui ne doivent surtout pas se résoudre, et ça, c'en est une des contradictions théoriques les plus fondamentales dans la pensée de Proudhon. On reviendra là-dessus, si vous voulez, à travers des exemples de propre vie. Donc vous voyez, ça résout le problème du déterminisme et de la liberté, qui devient un faux problème très secondaire dans ce modèle d'analyse, puisque est-ce que je suis libre, libre arbitre. Alors du coup, on est dans un monde dualiste où on affirme à la fois une liberté absolue, absurde, parce que tout le monde sait bien que personne n'est libre, ou un déterminisme absolu du côté de la science. Dans la pensée libertaire, le problème ne se pose pas, puisque c'est une tension entre les deux. Chaque entité a raison de se penser radicalement autonome, sinon libre, et en même temps, elle est entièrement constituée de forces qui la transforment sans arrêt. Donc, c'est le premier concept sur lequel on reviendra, si vous voulez, qui est sans doute le plus important. Deuxième concept, c'est donc le concept d'anarchie. Au sens premier du mot anarchie, anarché, c'est-à-dire absence de principe premier. Donc je rappelle, et ça je l'ai déjà dit, l'anarchie, ce n'est pas simplement l'absence de commandement, si on fait l'étymologie du mot, et si on repense une utilisation, l'anarchie, c'est l'absence de principe premier. Il n'y a pas de cause première à ce qui existe. Avec derrière l'idée adjacente, c'est qu'on voit bien que le commandement a à voir avec cette idée de cause première. Donc il y a un lien, si on est passé de la cause première au commandement, parce qu'anarché au départ c'est arché, c'est commencement, et ça va devenir commandement dans un deuxième sens. Donc du coup, avec la notion d'anarchie, dans cette théorie libertaire, et Proudhon l'affirme, on est en présence d'une ontologie radicalement différente. Par ontologie, c'est une science de l'être. L'ontologie, ça serait la théorie qui dirait le fondement des choses. Eh bien, l'anarchisme se réclame d'une ontologie radicalement différente. Une ontologie, donc l'être, vous voyez, dans l'ontologie, il y a l'idée que l'être, il existe, il est un, fixe, il ne bouge pas. Donc c'est une ontologie paradoxale, de nouveau, dans l'anarchisme, puisque c'est une ontologie qui dit ce qui est, c'est le devenir, le fugitif, le multiple, l'apparent, le différent et le singulier. Voilà, ça c'est ça, c'est une ontologie qui dit le contraire de ce que tend à dire l'ontologie dominante, dans l'Occident, tel que la philosophie s'est développée à partir des Grecs. Donc, je vais vous donner j'ai deux définitions, vous n'êtes pas obligé de les prendre, mais je vous donnerai les références. Donc, Bakounine dit, il va définir le monde, le réel. Bakounine dit, c'est une unité composée. Unité composée. On verra que Proudhon dit, en supposant que ce soit une vraie unité, parce que le doute, c'est anarchie, est-ce qu'il y a vraiment une unité? C'est l'unité composée, toujours reproduite par l'ensemble indéfini des transformations incessantes de toutes les choses qui existent. Ne le copiez pas, je vous donnerai, c'est très pratique. Pour ceux qui s'intéressent, je donnerai la référence. C'est une entité composée qui se reproduit à partir de la multitude infinie des transformations internes à cette chose. Deuxième définition, deuxième formulation, ce n'est pas des définitions. L'univers ou la causalité universelle n'est autre chose que la résultante. Donc l'univers est une résultante. On verra que pour Bakounine, il va dire appelez ça Dieu si vous voulez. Donc vous voyez bien dans cette pensée, Dieu est une résultante. Voilà, c'est ça le renversement étonnant. Donc la causalité universelle n'est autre chose que la résultante éternellement reproduite d'une infinité d'actions et de réactions naturellement exercées par la quantité infinie de choses qui naissent, qui existent et puis qui disparaissent en son sein. Voilà, donc le monde, c'est cette espèce de chaudière de force qui se compose, se recompose, se défend et se transforme. Voilà les deux définitions qu'on pouvait donner. Donc si on revient à la théogonie, on va voir pourquoi la théogonie est passionnante par rapport à cette position anarchiste qui est le thème du cours, c'est en quoi les Grecs intéressent la pensée libertaire. Eh bien l'intérêt, c'est de comparer la théogonie et la Bible, puisque ces deux textes qui apparaissent à peu près à la même époque, enfin 200-300 ans près, parce qu'on ne sait pas bien à quel moment ça apparaît. Donc je rappelle la théogonie c'est un texte assez bref, hein, vous pouvez le lire, ça se lit assez vite, c'est 1000 vers. Hein, mille vers, si vous prenez l'Iliade, il y a 14 000 ou 15 000 vers, donc c'est 15 fois plus petit que l'Iliade, donc sans parler de l'Odyssée. Et donc la théogonie, c'est un texte assez bref, beaucoup plus bref que les cinq premiers livres de la Bible. Enfin, la Bible est assez brève aussi. Si on compare à la Genèse, donc la comparaison, du côté de la Bible, vous avez une théorie de la création du monde, l'apparition de ce qui est, et la théogonie, c'est aussi un récit de l'apparition de ce qui est. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, je ne vais pas préciser, c'est que le texte d'Hésiode, si on fait la somme des récits grecs, c'est une version parmi d'autres, hein, le texte d'Hésiode. C'est-à-dire que, comme le dit Vernant, les récits grecs des divinités de la création du monde s'appuient, la formule de Vernant, c'est un récit parmi d'autres, très important, venu du fond des âges, dit Vernant. Donc là, il y a aussi une idée qui illustre ce que j'essaye de dire, c'est que tous les récits, que ce soit les récits indiens, ou la Bible, ou tous les autres textes, c'est des textes qui sortent eux-mêmes d'un fond d'oralité, d'histoire, dont on pourrait ensuite reprendre des travaux du Mézil sur les Indo-Européens, et tout ça. Donc il faut imaginer que tout ce dont... Donc la notion de récit, c'est très compliqué de parler du récit, mais c'est aussi des formes d'individuation dans une œuvre, la théogonie d'Hésiode. C'est des individuations qui se détachent toujours sur un fond vers lequel on retourne sans cesse ou non. Donc on est toujours dans le même mécanisme. Donc quelle est la différence entre la Bible et la théogonie? On va prendre du côté de la Bible, donc du monothéisme, qui sont les, donc je rappelle, c'est les deux piliers de notre civilisation à nous. Qu'est-ce qu'on trouve au début, à l'origine? On trouve l'un. On trouve Dieu. Un seul Dieu qui ensuite crée le monde avec sa diversité, le ciel, la terre, la lumière, après les animaux, l'homme, Adam, puis la femme qui arrive en dernier, en donnant Ève. Ensuite, les hommes se disputent entre eux. Il y a cette tentative passionnante du point de vue anarchiste, sur les anarchistes qui voient tout de travers. Hein. C'est que les hommes, désespérément, ils essayent de s'unir entre la tour de Babel, vous voyez, une tour commune, mais Dieu ne s'y trompe pas, et dit quoi, vous voulez être un comme moi, qu'est-ce que c'est que ça? Et Dieu se venge, et à ce moment-là, les hommes se mettent à parler plusieurs langues, ils se disputent, etc. Donc, du point de vue anarchiste, vous voyez bien que la tour de Babel, c'est un acte héroïque de l'humanité qui a été brisé dans l'œuf par la divinité. Ça, c'est du côté de la Bible. Si vous prenez du côté des Grecs, on va voir que c'est bien plus compliqué dans la réalité, mais dans un premier temps, c'est exactement l'inverse. La Bible raconte la naissance du monde et de la nature à partir de la divinité. La théogonie d'Hésiode raconte la naissance de la divinité à partir du monde et de la nature. C'est exactement l'inverse. La Genèse raconte la naissance du monde à partir de Dieu, la théogonie raconte la naissance de Dieu à partir du monde. Donc dans un cas, c'est Dieu qui crée le monde, dans l'autre, c'est le monde qui crée Dieu. Voilà. C'est aussi simple que ça. En fait, c'est bien plus compliqué. Mais... Et Et donc, je vous donnerai le verbe. Voilà, donc, on peut dire ça. On va voir comment c'est. On compliquera après. Donc, deuxième, tout ça, ça va donner. Donc, avant de discuter, là, les choses sont très claires quand on les présente comme ça. Ça va donner une divergence. Donc, je rappelle ce qu'on avait vu un peu l'année dernière, il y a deux ans. C'est cette tension dans l'Occident entre le monothéisme et la pensée grecque. On voit bien que c'est. Alors, un des aspects de cette tension, c'est pas là où c'est le plus intense, mais c'est là le côté le plus formel, c'est sur le terrain philosophique. Donc, dans la pensée occidentale, le grand problème, ça va être comment concilier ce terrain d'avancée, les présupposés du monothéisme et les présupposés, certains présupposés grecs, dont ceux d'Hésiode. C'est est-ce que le monde a été créé un jour ou est-ce que le monde est incréé? Je vous rappelle, c'est le même problème que le Coran. Sauf que là, l'inverse, c'est que ce qui est incréé, c'est le monde. Donc dans la philosophie grecque, en fait, c'est sans doute un faux problème, mais le monde préexiste à Dieu, alors que dans le christianisme, l'islam, le judaïsme, c'est le monde vient après Dieu et une création divine. Alors, voilà, c'est ce qu'on peut dire sur les deux. Alors, en fait, donc, c'est comme un cours d'université populaire, donc il faut aller sur les aspects techniques. En fait, c'est évidemment beaucoup plus compliqué. C'est ce qu'on peut tirer de ces deux textes, mais en fait, les choses sont plus compliquées. Je vais essayer de montrer ce qui est intéressant. On va toujours appliquer notre méthode qu'on pourrait dire généalogique. C'est ce que d'un côté on a la vie, d'un côté on a la théologie, ils l'inversent l'un de l'autre. Mais ça, c'est la conséquence ultime. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va remonter vers le fond des deux textes. Donc, on va remonter vers le fond, et quand on remonte vers le fond des choses, je reprends toujours mon problème, on se complique la vie, mais on est au plus près de la vérité. Donc, il ne faut pas. Donc, quand quelqu'un vous dit quelque chose qui vous blesse, ayez toujours une oreille généalogique pour remonter d'où ça vient, comment c'est venu, etc. Voilà, faites pas la coupure du Coran en disant « Tu m'as dit ça, oui, mais je voulais dire autre chose. » Non, 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 tu l'as dit, c'est fait, c'est marqué d'ailleurs, c'est signé par un notaire, etc. Donc là, si on remonte au fond des choses, on s'aperçoit que la différence entre le fond d'où vient la théogonie et le fond d'où vient la Bible, c'est bien plus compliqué que ça. Et donc, si on creuse les mythes originaires de la Bible, donc dans le Moyen-Orient, on s'aperçoit que l'idée que Dieu crée le monde, c'est pas évident. C'est pas évident du tout. En fait, dans la Bible, même dans le texte même de la Genèse, on fait une analyse précise, on s'aperçoit qu'il y a des points, de manière étonnante, qu'il y a des points communs avec ce que dit Hésiode, éventuellement sur l'origine du monde. Je vous rappelle que la Genèse est un texte très bref et très composite, puis il y a au moins deux ou trois récits qui sont regroupés. Voilà, je suis un peu perdu dans mes notes. Donc, les points communs entre la Bible et la théogonie peuvent s'expliquer soit par un fond très ancien qui est commun aux deux mondes, donc le monde plus sémite, la civilisation sémite et le monde indo-européen. Deuxième raison, c'est peut-être une raison qui n'est pas historique, c'est que l'être humain a une espèce de fond d'imaginaire qui s'émule dans le cerveau et ces choses qui sont communes entre deux mondes. Et donc c'est normal qu'on retrouve des points communs entre la théogonie et la Bible. Et troisième élément, c'est qu'entre la Grèce et le Moyen-Orient, il y a des échanges très important, et donc ce fond commun est le produit d'échanges, même s'il y a des civilisations assez qui prennent des formes différentes, le fond il est commun et les échanges rappellent sans arrêt ce fond. Donc si on prend l'humanité en entier, même la Chine, l'Asie qui paraît très éloignée de nous, on a eu sûrement beaucoup d'échanges avec eux. Je crois que le monde le plus le plus étranger, où il y a eu moins d'échanges possibles, c'est sans doute l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, les Aztèques, les Mayas, etc. Et encore ça, il faudrait voir. Donc là, de nouveau, on retrouve ce fait que si on fait une démarche généalogique vers le fond, on retrouve du commun. Donc quand on va vers le fond, on va vers l'anarchie, vers le multiple, mais paradoxalement, c'est là où du commun peut renaître. Deuxième point technique sur lequel, alors là, qui intéresse directement, on revient sur le thème du cours, c'est dans la théogonie, un concept est utilisé, qui va être repris directement dans le plan vers nous, c'est le concept de chaos. Donc c'est un mot très ancien qui apparaît dans la théogonie. Et donc, la théogonie, elle ne commence pas, si on prenait le texte de la Bible, le texte de la Bible, il commence tout de suite avec Dieu, mais j'ai perdu le passage, bref, ça n'a pas d'importance. Dans la théogonie, c'est le vers 115, au vers 115, au début, il y a un appel aux muses, mais qui est très important, qui n'est pas du tout un préambule. Et donc, il y a cette formule d'Hésiode. Donc, alors c'est dur à traduire, les traductions diverses, donc, avant toute chose, il y avait le chaos. Donc, ce qui est premier, c'est le chaos. Si on traduit bien le grec, ça serait, eh bien, avant toute chose, il y a le chaos. Donc, voilà, c'est ça. Donc, si on prend le mot chaos, vous êtes fatigué, non, ça va? Donc le mot chaos, si on prend le sens du mot chaos actuel, le mot chaos, il signifie tout simplement anarchie. Le chaos, c'est le désordre. Donc je rappelle chez Proudhon, le fond des choses, c'est le chaos, c'est l'anarchie, et la question, c'est de construire une anarchie positive, là on rentre dans les questions politiques et sociales directes de... Donc ça, c'est très favorable à la position anarchiste. Alors le point technique que je veux traiter, c'est qu'en fait, il y a un malentendu sur le mot chaos, et le mot chaos tel que l'emploie Hésiode, c'est pas du tout dans le sens, c'est pas tout à fait, ou même pas du tout, dans le sens où on l'emploie, au sens d'anarchie. Le mot chaos en grec, donc vous pouvez indiquer ça, le mot chaos, ça signifie l'abîme. La béance, un abîme, chaos en grec, abîme, béance, un gouffre obscur, un fond sans fond, une origine sans origine. Donc le mot chaos désigne l'abîme, la béance, le gouffre obscur. C'est seulement dans un second temps que le mot chaos a pris son sens de désordre et d'anarchie. Donc il y a un problème sur le concept de chaos. Donc c'est dans un second temps qu'il a pris le sens de désordre et d'anarchie, d'amas confus de choses éparses et désordonnées, on pourrait dire ça. L'anarchie, c'est trop de choses qui vont dans tous les sens, c'est le désordre. On voit bien qu'il y a une différence assez nette avec la notion d'abîme, qui serait plutôt du côté du vide, de la béance. Donc voilà ce qu'on pourrait dire. Alors, ça pose un problème qui en fait est très intéressant du point de vue de la lecture anarchiste du livre d'Hésiode, pour deux raisons par lesquelles je conclurai, donc les deux raisons que je vais essayer de vous expliquer, qui font que cette transformation du sens du mot chaos est intéressante du point de vue de la pensée. Première raison, c'est la moins directe, mais c'est sans doute la plus intéressante. Le changement de sens du mot chaos présente un grand intérêt. Donc je rappelle, comment vous expliquez ça? Donc la raison toute simple, c'est que vous avez un autre mot grec, je rentre dans la discussion technique, chaos, donc ça signifie abîme, béance, c'est utilisé dans ce sens-là. peux pas les spécialistes vont montrer plus loin dans le terme. Mais vous avez un autre verbe, qui est le verbe keu, keen, qui n'a pas du tout la même racine, qui est complètement différent. Donc keu, vous l'écrivez en français K-H-E-O, keen, qui signifie verser, répandre, disperser ce qui était contenu ou réuni. Donc keu, vous avez l'idée de dispersion et de choses qui se défont. Et donc, ce que les spécialistes disent, moi je ne suis pas un spécialiste, mais donc je suis ce qu'ils disent, c'est qu'à un moment donné, le mot chaos, il y a eu un phénomène de contagion, de dérivation avec un autre mot qui fait que le verbe chaos s'est assimilé avec chaos et chaos a repris du sens du mot chaos. Tout le monde voit bien le problème technique. Donc on dira c'est une erreur étymologique. Mais cette erreur étymologique, elle est passionnante, parce que les dérivations, c'est ma première raison, les dérivations sont toujours signifiantes. C'est-à-dire que c'est jamais par hasard qu'un mot va être contaminé par un autre mot et qu'il va y avoir des changements de sens. Et là, on touche un problème qui intéresse directement la pensée libertaire, c'est le rapport entre les mots et les choses, entre le langage et le sens. Donc je rappelle pour ceux qui, éventuellement, n'ont pas déjà dit, que dans la pensée anarchiste, il y a une dénonciation du langage et des mots comme imposant un ordre, l'ordre grammatical, l'ordre d'une langue, et que les mots imposent une dictature à la vie. Les mots, c'est une manière de réduire la réalité à une organisation langagière, une organisation comme les places, les fonctions, les rôles, etc. Et donc, cette contagion entre chaos et chaos est passionnante parce qu'elle montre comment la vie et la réelle résistent au langage et fait et impose au langage des distorsions. Donc le langage, c'est de mettre de l'ordre, et la vie naît du désordre dans le langage. Et donc, du point de vue de ce qu'on essaye de voir, il n'y a pas besoin de se référer à Freud et des lapsus, etc., pour voir que les mots perdent leur force face au réel, face au désir, face à la réalité. Et donc, cette contagion, elle est très intéressante. Et on pourrait résumer donc ce premier point que je viens de signaler. Le chaos à venir, le deuxième sens du mot chaos, le chaos à venir au sens de désordre et d'anarchie, était déjà présent dans le chaos des iodes. Voilà ce qu'on pourrait dire. C'est-à-dire que le chaos des iodes était porteur du point de vue de l'expérience humaine de choses qui autorisaient la contagion avec une autre idée venant d'un autre monde. Est-ce que c'est clair cette première raison? Pas très clair, hein? On y arrivera dans la discussion. Deuxième raison, beaucoup plus directe. Même dans son premier sens, d'anime, de béance, le mot chaos est très intéressant du point de vue de l'anarchisme et pour ce qu'on verra par la suite, en particulier à propos du théâtre grec. Donc, je vais suivre là, on a 5 minutes, je vais suivre pas à pas la démonstration de Jean-Pierre Vernant. Je vous renvoie à Jean-Pierre Vernant, le livre que je vous ai donné. Donc, Vernant va dire quelle est la question que posent les Grecs. Et donc voilà, si je vous lisais moi, vous trouveriez que j'exagère. Donc voilà ce que dit Vernant, mais il a évidemment raison, c'est passionnant. La question des Grecs est la suivante. Qu'est-ce qu'il y avait quand il n'y avait pas encore quelque chose? Voilà, vous pouvez noter ça. Qu'est-ce qu'il y avait? Les Grecs se posent cette question. Qu'est-ce qu'il y avait quand il n'y avait pas encore quelque chose? Quand il n'y avait rien? Voilà, ça c'est une question théorique que pose Hésiode et que posent les Grecs avec lui. Cette question, qui paraît absurde. Vous fatiguez pas trop, là, non? J'essaie d'avancer. Fou. Alors, donc, cette question, elle est complètement d'actualité. Je vais vous donner trois exemples de la force de cette question que pose la question de la vie, de l'alliance et de des hommes. Premier exemple, il relève de la nature. Qu'est-ce qu'il y a avant qu'un ouragan ou qu'une tornade se forme? Voilà, premier exemple. La question des Grecs, elle s'applique, il faudrait la penser à partir d'un exemple comme ça. Qu'est-ce qu'il y a avant que la tornade apparaisse? Avant que la scène de ménage éclate, voilà, un autre exemple comme ça. Donc, on peut mesurer ce qui se passe. La pression de l'air augmente et on assiste à une série de transformations qui ont lieu, comme on dit, qui ont lieu là où la tornade va naître. Hein, la notion de lieu, elle est très obscure aussi. Donc, ces choses qu'on observe, c'est le lieu de la tornade en formation, dans des changements de lumière, les animaux commencent à s'agiter, etc., ou avant un tremblement de terre, enfin bref. Donc, le langage permet de bien dire cette situation, qu'est-ce qu'il y a avant que quelque chose apparaisse, c'est qu'on dira, c'est le calme avant la tempête. Le calme avant la tempête, dans le langage courant, désigne bien ce moment avant que quelque chose apparaisse. Le calme, c'est rien, c'est un creux. Voilà, la tornade, elle apparaît dans un creux. Il y a quelque chose dans le monde qui, à un moment donné, dans un lieu précis, crée un creux comme un ventre castant de la naissance d'un bébé dans les images. Enfin bref, il y a un berceau, il y a un endroit qui se constitue. Donc, les failles et la béance, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il y a à un moment donné une béance où tout peut arriver, on ne sait pas quoi, et ça va se dessiner avec des indices très faibles. Deuxième exemple que je prends, c'est un exemple militaire, non pas militaire, mais guerrier. Je le tire de 1000 plateaux de Deleuze et Guattari. C'est l'état de catatonie. L'état de catatonie, c'est le guerrier qui se fige, il est immobile, avant de porter un coup de guerrier. Donc il va porter un coup, et donc l'analyse de Deleuze, c'est de montrer que cette immobilité, c'est une vitesse absolue. Voilà. Donc il y a une espèce de contraste entre l'immobilité, comme le calme avant la tempête, et la vitesse absolue qui va venir. Troisième exemple qu'on pourrait prendre, c'est un exemple esthétique, et on voit bien derrière, il y a beaucoup de choses de l'esthétique qui relèvent de la création. En sachant que la création, donc je rappelle que la création artistique, donc ça sera, qu'est-ce qu'il y a avant qu'un artiste inspiré réunisse ses forces pour produire une œuvre? Il n'y a rien, et pourtant, il y a quelque chose qui prend, qui est en vide, qui neutralise tout ce qui peut se passer par ailleurs. On vient lui dire, viens, tu fasses ça, il dit, appelle chez moi, je pense à autre chose, etc. Donc, on le retrouverait dans le phénomène de création. Et le phénomène de création, si on reprend Courbet, et si on reprend Proudhon, toute activité humaine, les théories esthétiques de Courbet, c'est de dire la création de l'œuvre d'art, c'est un cas particulier, particulièrement visible de toute activité humaine, où chaque fois qu'on fait quelque chose, on se prépare à réparer le moteur de sa voiture. Voilà. Bon, moi je fatigue aussi, j'ai pas fini. Donc la dernière idée à retenir, c'est que le chaos, c'est l'indéterminé. L'indéterminé où quelque chose va naître de cet indéterminé. Et donc l'indéterminé, il devient, dans la lecture libertaire qu'on peut faire de la théogonie, l'indéterminé, c'est à la fois le vide, parce qu'il n'y a pas de choses qui ont prise, et c'est à la fois le trop-plein, parce que il y a, dans l'indéterminé, tout peut sortir d'une situation d'indétermination. Dans la discussion, on pourra revenir peut-être.